Alors nous passons, Monsieur Fonté, oui, on a le temps, versement des contributions financières aux grandes institutions culturelles, Orchestre national de Lorraine, Messe en scène et Centre Pompidou, 2014. Monsieur Fonté.
Merci, Monsieur le maire. À la culture tant attendue, voilà les principaux dossiers. La culture qui est plébiscitée à Metz, j'ai cru lire ça dans un journal sérieux, 70% de la population plébiscite la culture dans cette ville, c'est formidable. Alors, cette année et pour 2014, vous avez remarqué que le, je n'osais pas le citer, la publicité dans cette enceinte est-elle autorisée ? Le budget de la culture pour 2014, je tiens à l'indiquer, est maintenu à son haut niveau. Et non seulement il est maintenu, mais il le permet dans le cadre d'une organisation budgétaire interne d'absorber à la fois la BAM et à la fois l'avenue de Blida, le nouvel équipement, sans remettre en cause l'essentiel de l'activité culturelle sur cette ville telle qu'elle a été construite depuis 2008. Elle permet à nos institutions de continuer à fonctionner. Elle permet surtout, et c'est une priorité que je me suis toujours donnée, à ce que nos acteurs locaux, les compagnies théâtrales, les groupes, les associations culturelles qui font le quotidien de la culture dans cette ville et le bouillonnement de la culture dans cette ville soient préservés et maintenus pour 2014 à son plus haut niveau. Ils sont importants parce que la culture à Metz, depuis 2008, irrigue l'ensemble des espaces messins et l'ensemble des territoires, les quartiers, les écoles, les maisons de retraite, etc. Et c'est important que ces acteurs-là continuent à vivre et à tourner et à porter la culture là où l'on dit que les publics en sont le plus éloignés. Et cette priorité-là, elle est assurée. Le troisième niveau, c'est d'avoir maintenu également les événements dans leur globalité, avec le glissement de la Nuit Blanche sur Blida, dans ce budget. Ainsi, ce budget répond à la lettre de cadrage que nous a donnée Dominique Gros, maire, pour que nous entrions dans la sobriété de la gestion qui nous a été indiquée. Dans le même temps, ce budget permet à nos institutions, grâce à la mutualisation et l'organisation d'Arsenal et des Trinitaires, et à Metz en scène, qui est un EPCC qui aujourd'hui fonctionne merveilleusement bien, d'avoir transparence, vie démocratique, et c'est important, une mutualisation avec une réelle économie d'échelle entre l'Arsenal et les Trinitaires, et bientôt avec la BAM, puisque le budget culture intègre 1,2 million euros de dépenses de fonctionnement de la BAM en mutualisant le budget des Trinitaires. Dans cet aspect, vous savez, et toutes les salles de musique actuelles ont des budgets qui tournent entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de fonctionnement. Grâce à cette mutualisation, c'est 1,2 million euros seulement de coûts de fonctionnement supplémentaires intégrés dans un budget constant tel qu'il était en 2012 et 2013. C'est important à signaler. Et dans le même temps, grâce à Metz en scène, les équipes ont appris à travailler et à trouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour maintenir à la fois leur haut niveau artistique et à la fois participer à l'effort de maîtrise budgétaire et de sobriété budgétaire au même titre que les autres services de la ville. Et ça, c'était important. Effectivement, les budgets de Metz en scène est en légère diminution de 2%. Celui de l'Orchestre national de Lorraine l'est également à hauteur de 2,2%, sachant que le budget de l'Orchestre national de Lorraine, là aussi, la réorganisation a permis au syndicat mixte aujourd'hui d'avoir un excédent de gestion à hauteur de 700 000 euros qui lui permet d'absorber les chocs pour les années à venir dans le cadre de la maîtrise budgétaire qui s'impose. La région ne baisse pas ses subventions à l'Orchestre national de Lorraine. Il est important de le préciser. Nous arrivons maintenant au Centre Pompidou-Metz. Centre Pompidou-Metz qui est au cœur de l'actualité, d'une actualité qui, prise au premier degré, donne une image fausse et dégradée de sa gestion, de son action ainsi que de son attractivité. Mais au-delà des soubresauts, et non pas de crise, parce qu'il s'agit de soubresauts, il faut aussi tirer les leçons qui doivent nous obliger à corriger les aspérités et les manques, et doivent nous permettre d'abord et en premier lieu de tirer un bilan après 43 mois de fonctionnement qui est, somme toute, très positif, au-delà des espérances et des prospectives initiales définies par l'honorable et précédent maire et président de l'agglomération de l'époque, qui était basé sur 250 000 entrées. Nous en sommes... Alors, ce n'est pas une critique, c'est effectivement ce qui était prévu à l'époque dans l'étude de faisabilité du centre et de marché. C'était estimé à 250 000 entrées. Nous sommes à ce jour à une moyenne de plus de 600 000 entrées par an. Et encore cette année 2013 à 350 000 entrées. Il faut le dire parce que les soubresauts de l'actualité faussent cette image. Le centre Pompidou-Metz, c'est aussi plus de 30 millions d'euros de dépenses commercialisables injectées dans le commerce local, soit un retour sur investissement en 2 années et demie par rapport à ce lieu. Le CPM, c'est aussi une image et une attractivité du territoire qui nous a fait gagner en 3 années 30 ans de communication. Metz, sa métropole, le département de la Moselle et la région y ont gagné une visibilité nouvelle. Lorsqu'on sait que la Lorraine, avec ses départements, est une des dernières régions pour son attractivité, mesurons ce que représente ce lieu formidable si tous les partenaires s'approprient à sa juste dimension cet outil territorial, culturel, touristique et économique structurant. En 2007-2008, avec l'association de préfiguration, le budget primitif initial du CPM était construit aux alentours de 11,5 millions. Un apport de Metz Métropole de 8 millions d'euros, le sort par la ville de Metz, le mécénat et des recettes propres estimées, je l'indiquais tout à l'heure, sur la base de 250 000 entrées. Déjà un budget sous-estimé. Ce budget prévisionnel était du même niveau en 2009. C'est à l'initiative de Dominique Gros que Jean-Pierre Mestret s'était engagé positivement dans le financement du centre Pompidou-Metz par une participation à la hauteur de 4 millions d'euros. Montant inattendu qui nous a plus qu'agréablement surpris à l'époque. Dans le même temps, le département de la Moselle, qui bénéficie en premier lieu des retombées touristiques du centre Pompidou, répondait négativement, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Ce lieu est magnifique, ses résultats probants. Attention, ne nous tirons pas une balle dans le pied et regardons et discutons sereinement de ce que nous devons faire, toutes collectivités confondues, pour que ce lieu reste dans une dynamique positive, continue sur le long terme, à même de faire face à la concurrence et complémentarité des autres grands lieux décentralisés, Mucem, Louvre-Lens, Confluence, Lyon. Le centre d'art et de culture qu'est le centre Pompidou en a la possibilité. Nous venons de le constater de par son bilan. Pour ce faire, le centre Pompidou se doit effectivement de corriger un certain nombre de choses. D'une part, améliorer et redimensionner sa gouvernance. Faire en sorte qu'un réel administrateur financier et DRH viennent renforcer la direction artistique. Nous en avons l'occasion actuellement, avec le départ du secrétaire général, pour redimensionner ce poste de secrétariat général grâce à un appel à candidature ouvert et avec un jury en cours de constitution. Il faut que le centre Pompidou vive également avec la ville de manière beaucoup plus vivante, avec nos partenaires locaux, avec son personnel, etc., avec sa communication. Faire en sorte que la présidence soit aussi et intègre de manière plus forte le Centre Pompidou-Metz dans son projet artistique national du Centre Pompidou-Paris. Là-dessus, nous avons des lacunes, certainement, et nous avons beaucoup à gagner, au même titre que le directeur du Louvre Lens s'est approprié, du Louvre Paris s'est approprié le Louvre Lens. Nous devons faire en sorte que Paris s'approprie le Centre Pompidou-Metz de manière beaucoup plus efficace et importante. Alors aujourd'hui, il s'agit aussi d'améliorer et de redimensionner son budget, effectivement, et non pas de croire qu'il y a une mauvaise gestion. Il faut savoir que sur les 3 dernières années, le centre Pompidou-Metz a dégagé près de 700 000 euros d'excédent de gestion. Cet excédent de gestion, effectivement, a servi à couvrir le budget 2013 parce que le budget artistique a induit des dépenses supplémentaires par rapport, et y compris le fait qu'il y ait beaucoup plus d'entrées et le budget prévisionnel sous-estimé a induit des dépenses supplémentaires qu'il fallait couvrir. Il n'y a pas donc de mauvaise gestion et de déficit. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est à quelle hauteur nous voulons dimensionner le projet artistique et quelle est sa reconnaissance au regard des ambitions et des enjeux qui, initialement, ont amené à la construction de ce lieu. C'est ça la réalité. Avec un budget artistique de 2,8 à 3 millions d'euros, soit autant que l'Opéra Théâtre de Metz, la portée nationale et internationale du Centre Pompidou-Metz n'est certainement pas à la hauteur des enjeux. C'est ça la réalité aujourd'hui qui est posée. Il n'y a donc pas de mauvaise gestion, mais de voir à quel niveau le curseur du projet artistique sera placé dans l'avenir. C'est celui-là qui est important. Je ne parle pas du budget de fonctionnement, bien sûr. Il y a des choses à gratter, certainement, et la gestion à améliorer. Mais le projet artistique doit être à la hauteur. Il ne l'est pas aujourd'hui. Il est sous-dimensionné, sa communication également. La région souhaite, dans une phase complexe de réduction budgétaire, revoir son engagement financier et s'engage néanmoins à maintenir son financement de l'exposition phare qui vient renforcer le projet artistique du centre et les expositions temporaires. Cette exposition phare, elle aura lieu très prochainement, en février, elle sera installée. Alors, sur l'annonce du Conseil régional, on peut s'interroger sur la méthode utilisée, mais l'alerte sur le fond est sérieuse et réelle. Elle doit nous conduire et à clarifier au sein de Metz Métropole une politique culturelle aux compétences harmonisées, aujourd'hui dispersées, et une politique culturelle cohérente de l'ensemble des groupements de Metz Métropole et de la ville. Dans l'immédiate et dans l'attente d'une réunion des collectivités toutes confondues sous l'égide du préfet, le budget prévisionnel du centre sera discuté le 20 décembre au conseil d'administration. Nous trouverons les ressources nécessaires à son équilibre, et n'en saurait être tout autrement. Pour ce qu'il en est de ce soir, la ville apporte sa contribution habituelle à hauteur de 400 000 euros et la motion est en conséquence. Merci.
Merci. Merci. Alors, monsieur Thiel. Madame Colin-Osterlé pour l'intergroupe. Très bien. Monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire. Alors, moi, je voudrais faire. Nous avons eu un grand plaidoyer sur la culture messine d'Antoine Fonté. J'ai remarqué dans son ton un peu de gêne, cependant.
De gêne.
Et je le comprends.
C'est mal le connaître. Plutôt de l'émotion, mon cher Patrick.
Comment ?
Plutôt de l'émotion. Ah. C'est ma dernière présentation.
Ah, d'accord. Ah. Alors, moi, je voudrais. Non pas globaliser comme il l'a fait toute la politique culturelle, puisqu'on n'est pas dans le débat budgétaire, on est ici sur une motion. Mais néanmoins, comme il en a parlé, et que je m'adapte au discours, je voudrais quand même dire une chose qui me paraît fondamentale, que j'ai déjà eu l'occasion de dire ici d'ailleurs. C'est que lorsqu'il y a des tensions financières que l'on peut comprendre, c'est vrai, ou que des efforts sont à faire, ce qu'il convient de préserver, ce sont les grandes institutions culturelles. Oui, je sais que c'est là qu'on n'est pas d'accord. Ce sont les grandes institutions culturelles, et non pas coûte que coûte à maintenir de l'événementiel en sacrifiant les grandes institutions culturelles. Quand on peut faire les deux, c'est bien, mais quand il y a des choix difficiles à faire, il faut avoir le courage de les faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le rapport que nous vous donnez, et qui concerne trois grands établissements culturels, évidemment, nous avons des baisses budgétaires. Et ceci, permettez-moi de le dire, en défenseur de la culture messine, et d'ailleurs, eh bien, ça m'émeut, et je ne comprends pas vos choix budgétaires. Je ne les comprends pas. Que nos grandes institutions culturelles, que sont ceux dont il est l'objet du rapport, c'est-à-dire l'Orchestre National de Lorraine, l'EPCC Metz en scène que vous avez voulu, en nous disant que l'on ferait, à cause de cette structure, des économies. On n'a jamais vu, grâce à la mutualisation, des économies. Passons, j'aurai l'occasion d'y revenir. On va y revenir. Et évidemment, à une chose importante, le Centre Pompidou, alors certes, où la ville maintient effectivement son engagement financier, mais je vais y revenir. En tous les cas, afficher des baisses budgétaires sur de grands établissements culturels me paraît extrêmement dangereux. Ce sont eux qui font le rayonnement de la ville d'un point de vue culturel et le rayonnement économique qu'on est en droit d'y attendre. D'autre part, je vous rappelle que ce sont eux qui défendent l'emploi culturel mosellan et messin, parce que ce sont derrière tout ça des conservateurs, des gens qui travaillent pour la culture, des musiciens, des interprètes, etc. Alors que d'autres sont de passage. Alors, je dis simplement, chers amis, qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Je sais bien que pour la première fois, depuis l'histoire de la Ve République, nous avons pour la première fois une ministre de la Culture qui diminue le budget culturel de la France. Ça ne s'est jamais vu. Évidemment dans les détails. Globalement, le budget culturel de la France est en diminution. Il faut rendre à César ce qui est à César. Madame Filippetti est le ministre de la Culture français qui aura baissé le budget de la culture. J'ose imaginer ce que d'aurait donné, n'est-ce pas, une baisse du budget de la culture sous, par exemple, Frédéric Mitterrand. Ça vous dit quelque chose, Mitterrand? Eh bien, je suis sûr qu'on aurait vu débouler tout ce que le monde compte d'artistes, etc., pour s'enflammer dans des tribunes qui prenaient des grandes pages, Le Monde, Le Figaro et d'autres, pour dire quel scandale, on touche à un fondement de la République française, de toujours, n'est-ce pas, on touche à la culture. Eh bien, Madame Filippetti touche à la culture. Voilà. Et vous trouvez ça tellement bien que vous la prenez comme deuxième de liste, la seule ministre de la Culture. Heureusement que vous avez Jean-Jacques Ayagon qui avait déjà choisi M. Hollande parce qu'il n'était pas content que M. Sarkozy ne l'avait pas laissé à Versailles, ce qui aurait nécessité la modification d'un décret à quelques 3 mois, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle. Alors heureusement que vous en avez un qui compense cela, mais tout de même, je préfère Jean-Jacques Ayagon, malgré son revirement pour M. Hollande, à Mme Filippetti.
C'est dur,
parce que lui, au moins...
C'est bien compliqué, mais
non,
vous en
c'est
sortez
pas
mal.
Continuez. C'est d'une très grande simplicité.
C'est bien compliqué.
Il y en a un qui, a travaillé sur le centre Pompidou, il y en a une autre qui, qui laisse faire et laisse passer. Alors prenons l'Orchestre National de Lorraine. Il affiche une baisse. C'est déjà le plus petit budget des orchestres nationaux français. Tout le monde le sait. Antoine, il est président, il sait ça mieux que personne. C'est le plus petit budget. Moi, je dois dire que j'attendais un geste de l'État. C'est la crise. Ça fait énormément de temps que nous sommes, pardonnez-moi, sur des tiers inégaux. Normalement, un syndicat mixte, ça fonctionne avec chacun apportant sa part de contribution de manière égale. Et le budget de l'orchestre devrait être un tiers de financement État, un tiers de financement région, un tiers de financement ville. Mais je ne sais pas pourquoi Metz ressemble à Marseille, ou cette fois-ci à un pastis, où il y a le petit tiers, le moyen tiers et le grand tiers.
C'était le cas sous votre gouvernance déjà.
Le grand tiers, comme dirait Gaudin, c'est la ville. Le moyen tiers, c'est la région, et le petit tiers, c'est l'État.
Et c'est l'héritage.
Je sais, monsieur le maire, je sais que c'est depuis longtemps comme ça. Mais quand on a un ministre... Mais monsieur le maire, quand on a un ministre qui se dit messin, on attend quelque chose. D'accord. Figurez-vous qu'on n'a pas eu 36 000 ministres, on a eu Raymond Mondon, à qui nous devons beaucoup de choses quand il a été ministre, y compris le fameux passage de l'autoroute qui a fait tant trembler Nancy. On a vu Jean-Marie Roche, qui a été ministre, qui nous a amené ici des écoles, des universités, le Technopôle, TDF, et j'en passe, et des meilleurs. Qu'a apporté Madame Filippetti à Metz? Rien, sinon même pas de remettre le petit tiers de l'État au niveau du tiers normal.
Mais attendez qu'elle soit maire.
Non, mais attendez, c'est pas lié à la fonction de maire. Écoutez, c'est quand même extraordinaire que le budget de l'Orchestre national de Lorraine n'ait pas été au moins un petit peu poussé. Qu'est-ce que c'est pour un ministre de... C'est rien, hein, c'est rien. Et puis le petit orchestre national de Lorraine, grand par sa réputation, mais petit par son budget, méritait bien un coup de pouce. Voilà, je voulais le dire simplement. Ensuite, le PCC Metz en scène. Alors, le PCC Metz en scène, permettez-moi de vous le dire, d'abord, la mutualisation que vous avez indiquée, le fait que ça allait coûter moins cher, tout ça, on a vu que ça coûtait plus cher, mais alors, il y a plus grave que ça, il y a plus grave. Vous savez, nous avons tous été sur ces bancs, vous vous en souvenez sans doute, très critiques sur la BAM. Nous pensions en effet qu'il fallait développer le projet d'une salle des musiques actuelles autour des Trinitaires. D'ailleurs, ça avait été commencé comme ça. Nous avions demandé aux gens qui habitaient les appartements qui étaient encore dans les Trinitaires, des maisons qui jouxtaient, de partir. Ils étaient partis parce que nous voulions y installer ce qu'on appelle le centre de ressources qui est nécessaire à la labellisation SMAC, salle des musiques actuelles. Ce qui manquait effectivement, c'est que pour certains concerts, allez, on va dire peut-être 5 ou 10 par an, il manquait une jauge dépassant les 300 places que l'on peut, les 300 personnes que l'on peut accueillir dans ce qu'on appelle la chapelle des Trinitaires. Bon. Pour cela, il suffisait de faire un léger investissement, quelque part, bon, vous vouliez Borny, pourquoi pas même, mais j'ai jamais pensé que c'était la centralité culturelle. Nous pensions que c'était mieux ailleurs, et notamment sur le plan d'eau, pour compléter le dispositif qui n'entraînait pas des coûts de fonctionnement, parce que c'était simplement, j'allais dire, une salle de allant jusque 600 places, hein, et que l'on aurait eu. Le reste était lié. Vous avez rêvé à une nouvelle salle des musiques actuelles. Disons les choses comme elles sont. Et non seulement vous y en avez rêvé, parce que s'il s'agissait que ça, ce serait pas grave, mais vous l'avez concrétisé. Je vous dis, chers amis, que j'ai une certaine expérience. Pendant 7 ans, nous avons fait des concerts des musiques actuelles à la foire, qui contenaient, à la FIM, qui contenaient 1000 personnes, écoutez-moi bien, avec des publicités de Strasbourg à Reims sur certains concerts. Jamais, alors que 1000 places étaient offertes, nous n'avons dépassé 400 à 450 personnes présentes. Pourquoi ? Parce que la musique actuelle est fragmentée, parce que les amateurs de rock n'aiment pas le... Comment ? Ah, la promotion était très très bien faite, et par, avec la ville, etc. On va reparler... On verra.
C'était le bon
aujourd'hui,
temps.
Aujourd'hui, l'autre canal à Nancy est une scène qui a du mal. Vous avez la scène de Famec qui est remarquable et qui a depuis très très longtemps une programmation et qui est très connue dans le paysage culturel. Florange aussi, j'allais y venir. Florange, Famec, qui sont connues, toutes les deux sont connues. À Terreville, c'est également connu. Et l'autre canal à Nancy, qui est plus récent, a beaucoup plus de mal à développer ses concerts. Alors, je dis ça sera une part de votre héritage, monsieur le maire, qui sera sans doute assez difficile sur le plan culturel, sur le plan du fonctionnement. Alors, ne dites pas... Alors, j'en viens maintenant à la mutualisation. J'ai observé, monsieur le maire et cher ami chargé des affaires culturelles, que si on peut dire que l'Arsenal fonctionne bien, c'est vrai, je reconnais, l'Arsenal fonctionne bien, ça a toujours très bien fonctionné, ça fonctionne bien. Bon. Mais il faut faire, et les Trinitaires aussi, mais il faut faire très attention. Enfin, la grosse partie du budget, c'est quand même l'Arsenal, permettons-nous de nous le dire. Il faut faire très attention qu'en prenant ici pour compenser cela, nous n'ayons pas finalement la médiocrité partout. C'est-à-dire qu'on soit appelé à réduire ce qu'on appelle les têtes d'affiche de l'Arsenal, les grands concerts de l'Arsenal, au profit de la BAM, et que la BAM ayant des difficultés de concurrence, etc., ça ne fonctionne pas très bien. C'est ma plus grande crainte, je ne vous le cache pas. Enfin, un mot, parce que Nathalie Collin-Osterlet vous parlera de tout ce qu'elle connaît, puisqu'elle siège au Centre Pompidou-Metz. Écoutez, le Centre Pompidou-Metz, vous l'avez reconnu, mais nous l'avons dit il y a tellement longtemps, et pendant 6 ans, c'est vrai, nous répétions la même chose, le Centre Pompidou-Metz n'a pas l'appui, je dis les choses telles que je pense, n'a pas l'appui du Centre Pompidou de Paris, ce qui est un véritable scandale. Au point même où la bâche gigantesque et très belle qui représentait le Centre Pompidou de Metz et qui n'était pas très loin du portrait du président Pompidou, dont je vous avais d'ailleurs demandé d'en faire un double pour le mettre ici, mais ce n'est jamais venu, par Vasarely, eh bien, au point qu'on voyait que ça quand on était dans le grand hall du centre Pompidou-Metz. Eh bien, aussitôt l'ancien président parti, la toile a été roulée et on n'en parle plus. Il n'y a aucune indication sur le centre Pompidou-Paris, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, qui fasse une quelconque publicité sur le centre Pompidou-Metz et ses expositions. Je passais l'autre jour devant le Louvre, ou à l'extérieur du bâtiment du Louvre, vous m'entendez bien, à l'extérieur, vous avez de très grands calicots énormes qui vous parlent des expositions du Louvre Lens. Rien de tel à Pompidou-Metz et à Pompidou-Paris. Deuxième chose, vous avez développé les dépenses de communication. Mais de nouveau, nous vous redisons la même chose, parce qu'on a déjà dit la même chose. Votre publicité et votre promotion ne passaient que vis-à-vis des Messins. Et à cet égard-là, elle n'était pas loin d'ailleurs d'une promotion électoraliste, je ne vous le cache pas. Il aurait mieux valu qu'au lieu de faire des promotions internes à la ville de Metz, eh bien, vous concentriez vos efforts de communication sur l'extérieur de la ville. Nancy, Luxembourg, Strasbourg, Düsseldorf, qui est un centre d'art contemporain, qui a 2 musées d'art moderne, vous vous rendez compte, 2, et un centre d'art plus, la Suisse, etc., les produits périphériques, vous ne l'avez pas fait. Ça, ce sont des choix politiques. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'il y a quelques difficultés. Enfin, mais je laisserai ce point-là à développer par Nathalie Collin-Osterlet, je voudrais vous dire que je trouve quand même stupéfiant, que la région enlève 25% de sa subvention, qu'elle avait menacé d'enlever au cas où il n'y ait pas d'exposition semi-permanente. Or, ces expositions semi-permanentes ont été maintenant actées, ce qui était d'ailleurs dans le projet depuis toujours, mais concrétisées, on va dire. Et malgré cela, alors que moi j'avais pensé que c'était une sorte de mesure de rétorsion, on connaît le caractère de Monsieur Masseret, n'est-ce pas ? Si vous ne faites pas ça, je vous coupe les vivres. Bon, en matière culturelle, ce n'est pas très gentil, mais enfin, bon, je n'ai jamais agi comme ça. Lui le fait, mais quand bien même obtiendrait-il satisfaction ? Quand bien même a-t-il obtenu satisfaction ? Que néanmoins, le projet, mais Nathalie en parlera mieux que moi, prévoit 25% de subvention sur, permettez-moi de le dire, quand même une subvention qui n'est pas neutre. Quelles conséquences pour les autres budgets ? Je vous pose la question. Qui va être obligé, aujourd'hui on met 400 000, demain combien ? Qui va être obligé de reprendre cela ? Alors que Antoine Fonté, d'ailleurs, a raison de dire que sans doute le budget, je dirais, propre aux expositions devrait être développé et je partage son point de vue. Voilà, monsieur le maire, un certain nombre d'observations sur cette motion comprenant effectivement 3 points. Je me suis contenté de cela à l'ordre du jour de notre conseil municipal.
Merci, madame Collin-Osterlet.
Oui, monsieur le maire. Bon, beaucoup de choses que je partage également dans l'intervention d'Antoine Fonté sur effectivement le manque d'appropriation par Paris de notre centre. Patrick Thiel le rappelait, effectivement ça a été quand même régulièrement, pour ne pas dire à chaque conseil d'administration, réclamé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne voyons pas de vrais changements par rapport à cela. Alors, Jean-Pierre Masseret annonce donc un retrait de 25% de subvention, c'est un million sur les 4. Et se dit déçu par le centre et son fonctionnement. Et je rejoins là aussi Patrick, c'est vrai que Jean-Pierre Masseret avait réclamé une exposition semi-permanente, et d'ailleurs nous l'avions approuvée, c'est chose faite, donc on peut effectivement se poser d'autres questions sur les vraies raisons de ce retrait de la région. Alors il se dit donc déçu par le centre et son fonctionnement. Nous avons eu tout à l'heure un débat assez vif au Conseil régional, en séance plénière, et franchement, entendre M. Masseret et Mme Zanetti dire que le centre Pompidou, ça intéresse d'abord Metz et l'agglomération messine, j'ai envie de vous dire que les bras m'en tombent, parce que imaginez que Pompidou n'a pas un rayonnement régional, national, international, c'est invraisemblable de tenir de tels propos. Alors, lors des différents conseils d'administration, je n'ai jamais entendu ni M. Masseret ni un de ses représentants, c'est vrai qu'il n'est pas très souvent là, remettre en cause les choix de programmation du directeur du musée, ni même l'évolution des dépenses de fonctionnement. cette évolution sur laquelle j'ai eu d'ailleurs l'occasion de m'exprimer et d'émettre des grandes réserves. Je pense particulièrement à celles qui seront engendrées par l'acquisition de nouveaux locaux, nouveaux bureaux pour 1 million d'euros dans la ZAC de l'amphithéâtre et bien évidemment des dépenses de fonctionnement qui vont en découler. Je me suis également inquiétée de l'évolution de la politique tarifaire. Je le rappelle, un tiers de billetterie payante aujourd'hui, deux tiers de gratuite. Et cette politique dont l'inefficacité économique n'est plus à démontrer. Mais que penser de cette annonce de votre ami, M. Masseret, à quelques jours du vote du budget 2014 pour le centre, budget que nous allons donc être amenés à voter demain. M. Masseret a envoyé un courrier il y a quelques jours, je crois même hier ou avant-hier, annonçant qu'il ne serait pas présent et qu'il ne serait pas représenté demain lors du conseil d'administration pour le vote de ce budget. Alors moi je vous pose la question, comment allons-nous faire pour voter un budget sans savoir, sans connaître la participation de la région avec une annonce de 1 million en moins sur le budget 2014. Lors du dernier conseil d'administration, le comité de suivi budgétaire avait annoncé déjà une impasse, c'était ces termes, hein, une impasse budgétaire de 1 million d'euros. Alors, on essaie de trouver des solutions pour arriver à un meilleur équilibre. Et puis, le président Masseret annonce à nouveau 1 million de moins dans le budget. Alors, je trouve incroyable que M. Masseret fasse ça avec autant de désinvolture. Effectivement, il demande à ce qu'il y ait un nouveau tour de table. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à quelques heures du vote du budget. C'est insensé. Se dire déçu aujourd'hui par ce centre, alors que celui-ci, le centre, est décrit dans le pacte Lorraine, je cite, comme un équipement emblématique, moteur essentiel de l'attractivité de notre territoire. Alors, il faudra m'expliquer le sens qu'a aujourd'hui le positionnement du président Masseret. Et moi, j'aurais aimé que M. Masseret fasse preuve d'autant d'autorité lorsqu'il s'est agi de mettre Gessy face à ses obligations au moment de récupérer les 21 millions qui ont été versés par les contribuables lorrains et qui sont partis en fumée. Idem pour les 90 millions qui sont budgétisés pour Chamblay à l'horizon 2017. Alors, Monsieur le maire, je crois qu'il est de votre responsabilité, en tant que maire de Metz, que premier vice-président de Metz Métropole, de vous exprimer sur ce sujet et de mettre tant le président de la région que Mme Filippetti également, candidate à Metz, face à leurs responsabilités. C'est le budget 2014 du Centre Pompidou-Metz que nous avons à voter demain et je voudrais donc vous entendre par rapport à ces difficultés qui sont les siennes aujourd'hui. Merci.
Merci. Alors, comme M. Thiel a fait un cavalier qui était toute une cavalerie, c'était un régiment de cavalerie, j'ai demandé à M. Fonté, sur l'ensemble de... Très bien. C'était magnifique. Et comme Antoine Fonté nous a dit que c'était son chant du cygne, je voudrais laisser le cygne chanter en réponse et Antoine Fonté expliquer ce qu'il a à dire des remarques qui ont été faites par Patrick Thiel en tant que rapporteur. Monsieur Fonté, vous avez la parole. Après ça, je prendrai la parole. Je répondrai bien volontiers à Mme Collin-Osterley sur le centre Pompidou. Monsieur Fonté, s'il vous plaît.
Ben, le chant du cygne, mais j'ai une peau d'éléphant quand même. Alors, bon, je suis très content que la culture fasse exister mon collègue Patrick Thiel dans le cadre de cette union des unions ou des unions, je ne sais pas trop. Mais... Voilà. Et puis c'est dommage, dans votre intervention, vous disiez que les artistes, etc. Oui, les artistes, c'est un peu embêtant. Souvent, ils sont à gauche et donc ils apportent. Donc voilà. Donc ils savent où sont les véritables amis et comment se développent les politiques. Alors sur ce que vous disiez, Metz en scène, oui, c'est une réussite, je suis désolé. Il y a une véritable économie d'échelle, parce que lorsque nous avons pris la gestion, les Trinitaires, il y avait trois associations, deux associations, il y a un organisme privé qui gérait les lieux, qui à eux seuls bouffaient un budget d'1,5 million, je ne sais plus trop quoi, et que nous avons dû remettre de l'ordre. Donc on a fait une véritable économie d'échelle, véritablement. Donc sur le projet artistique, tant de l'Arsenal que de l'Orchestre National de Lorraine, il n'y a aucune baisse de la qualité artistique dans ces deux ensembles. La preuve, c'est qu'il y a une évolution du public de plus de 25% sur les deux structures, que les abonnements sont en en permanence sollicité, renouvelé et en augmentation, et qu'il y a un véritable engouement sur le plan artistique sur ces deux ensembles. L'Orchestre national de Lorraine ne verra pas son projet artistique se réduire. Alors même si, et comme vous l'avez dit, l'héritage nous l'a laissé avec les conditions que vous connaissez bien, avec une subvention de l'État inférieure par rapport aux deux tiers qu'apporte la région et la ville de Metz, bien entendu. Mais c'est une situation historique qui a été difficile à modifier, que ni sous Sarkozy, ni sous Frédéric Mitterrand, nous n'avons pu améliorer. Donc, voilà. La ministre prend un budget, comme l'a dit M. Fillon tout à l'heure, d'un État en faillite. Elle doit, dans les conditions actuelles, faire avec un budget de la culture qui, somme toute, sauve les meubles. Et il aurait pu être réduit, si en cas d'élection de M. Sarkozy, beaucoup plus que cela. Et croyez-moi, il en aurait eu l'intention. Donc, ne faisons pas de procès d'intention dans ce domaine. Alors, sur la BAM, vous pouvez dire ce que vous voulez. La BAM, il y a une attente et un engouement des groupes musicaux. C'est une BAM qui fonctionnera. D'ailleurs, quand vous dites que vous aviez un petit investissement, comme dirait Marius tout à l'heure, mais ce petit investissement, il était budgété en 2007-2008 déjà 10 millions d'euros, cher ami. C'est ce que m'ont indiqué les services ici derrière. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Donc, on n'en a pas mis beaucoup plus. Et tout en faisant un bel outil, bien intégré au quartier de Metz-Bourny. Donc, ce projet était déjà programmé. Il était déjà dans les budgets d'investissement que vous aviez programmé à l'époque, et nous l'avons fait que le reprendre et simplement le déplacer de lieu et lui donner une belle enveloppe faite par un bel architecte qui a fait le MUCEM à Marseille et qui aura une belle attractivité au sein d'un quartier redynamisé. Et voilà, donc tout simplement pour le reste, sur le centre Pompidou, je l'ai. Sur le centre Pompidou, je laisserai Monsieur le maire répondre.
Voyez, Monsieur Thiel, d'habitude, on a un débat assez consensuel sur la culture, et je dois dire que c'est assez normal, puisque vous êtes un grand spécialiste. Moi, je suis un petit amateur, et je vous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, et on essaye d'être au niveau, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la classe que vous représentez. Cela dit, les Messins, dans le dernier sondage qu'on a pu trouver dans un hebdomadaire pas mal lu dans cette assemblée, indique à 70% qu'ils sont satisfaits de la politique culturelle. Donc, il n'y a quand même pas le feu. Et je me contenterai de ce score, pour rien vous cacher, en mars prochain. Alors, je voudrais maintenant vous dire que, je vais le répéter, la gestion de l'Arsenal, qui était une gestion associative. Moi, j'ai trouvé une directrice à 11 000 euros par mois. C'est comme ça. J'ai trouvé ça. J'ai dû gérer une association où j'avais jamais pu adhérer. Vous vous rappelez, j'avais proposé à deux reprises à mon prédécesseur d'adhérer pour être présent, comme nous avons dans nos conseils d'administration. Ça vient d'être expliqué, Madame Nicolas ou Madame Collin-Osterlé, parce que c'est bien la démocratie. Et l'un dans l'autre, je ne me plains pas de la façon dont ça se passe. J'ai tous les chiffres ici. Et je peux vous dire que partout, la culture, elle a augmenté. La culture, elle a augmenté financièrement de façon significative par rapport à 2008. On est à plus 9% pour l'ONL. En ce qui concerne le PCC Metz en scène, c'est très élevé, mais nous avons développé les Trinitaires. 25% de plus de spectateurs et d'auditeurs. C'est quand même bien pour les 25 ans, vous voyez. Et vous étiez content aussi, vous voyez. Donc je pense que l'un dans l'autre, faut pas. D'habitude, on se congratulait pourtant, plutôt pour ce type de performance. On a remis un petit peu de nouveauté dans l'organisation de l'Arsenal, et sincèrement, c'est bien. Tout le monde est content. Je suis un peu étonné de votre intervention. Je pense qu'elle est un tout petit peu provoquée par les échéances de mars, mais c'est peut-être une erreur. Toujours est-il que, en général, les gens sont satisfaits de ce qui se passe au Trinitaire, à l'Arsenal, et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors maintenant, c'est vrai sur Bourny, je reconnais que on a mis la boîte à musique à Bourny. C'est vrai. Monsieur, je l'ai fait carrément, à Bourny. On a débattu, Et puis on a considéré que ce quartier, eh bien, il était tout à fait adapté pour recevoir la boîte à musique, et de nombreux médecins vont y aller. Et je trouve, mais s'il y a de la place de parking, et puis il y a le métis qui passe là, et c'est un très bel endroit. Et monsieur Thiel, nous allons tout faire pour que ça fonctionne bien. Et moi, je suis heureux qu'un quartier comme Bourny ait un grand équipement culturel qui intéresse toute l'agglomération. C'est une noblesse pour ce quartier. Et moi, je m'y rendrai peut-être à votre compagnie avec plaisir. Parce que, moi, ben voilà, parce que vous irez comme moi à Bourny, à la boîte à musique. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est très bien d'aller à Bourny, écouter de la musique. Je trouve que c'est même très, très bien. Et j'ai aucun regret sur cette décision, parce que c'est une décision qui montre que la ville de Metz, eh bien, elle s'adresse à tous ses quartiers et qu'elle peut très bien prendre cette initiative intéressante de mettre cet équipement d'un grand intérêt partout. Alors, maintenant, sur le centre Pompidou, je dois vous dire que je partage un certain nombre des interventions qui ont été faites. Et c'est vrai que... Oui, bah, vous voyez, il y a un vrai problème. Le président du centre Pompidou-Metz est à cette place parce que les collectivités locales l'ont voulu. Nous aurions pu, et singulièrement Jean-Luc Baule, nous aurions pu exiger, dans la mesure où nous étions les payeurs, la présidence. Et pour des questions de coordination du centre Pompidou-Paris et du centre Pompidou-Metz, nous avons pensé, nous les collectivités, bien qu'étant chargés de payer, que ce soit la région, la ville ou Metz Métropole, qu'il était préférable de mettre à cette place le président du centre Pompidou Paris. Et la déception que nous avons et que je partage, qui a été souvent exprimée par William Schuman, qui, je viens de l'apprendre, souhaite une explication de vote, je lui donnerai, au cours du conseil d'administration, et c'est lui le premier qui a porté le fer sur ce sujet, est réel. Il n'y a pas suffisamment de coopération entre les deux établissements, même si les œuvres qui viennent au centre Pompidou-Metz sont en grande majorité issues du centre Pompidou-Paris. Mais effectivement, et c'est encore il y a quelques jours, René Darbois ici présent, qui a joué le touriste parisien et qui a demandé si on pouvait avoir des nouvelles du centre Pompidou-Metz, et il a cherché partout, et après avoir cherché partout et longtemps, on a trouvé enfin une carte postale en lui disant « Écoutez, on a ça ». C'était une carte postale. C'est-à-dire qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est le test. Et ce test, on en parlera demain. On en parlera demain au conseil d'administration. Et je vous le livre, parce que René Darbois a fait exactement le travail qu'il fallait faire, c'est-à-dire de faire le touriste qui vient prendre des nouvelles du centre Pompidou-Metz au centre Pompidou-Paris. Et il a eu beaucoup de mal à trouver au fin fond de la bibliothèque une carte postale du centre Pompidou-Metz, pointe à la ligne. Voilà la vérité, et c'est vrai. Deuxièmement, maintenant, sur les financeurs. Moi, je voudrais que vous m'associez, que vous vous associez à moi pour remercier la région d'avoir déjà mis à 3 reprises 4 millions d'euros au centre Pompidou-Metz, parce que ce n'était pas évident au départ. Et surtout, ce n'était inscrit dans aucun contrat, dans aucune convention. Monsieur Thiel, vous qui avez l'habitude de parler volontiers de jadis naguère, eh bien, le financement des 9 millions à trouver, c'est Metz Métropole qui en est le garant. Metz Métropole. Et si Metz Métropole avait dû verser les 9 millions correspondant à la participation des collectivités locales inscrites dans le contrat par rapport aux 12 millions du budget, 12 millions, 12 millions et demi, eh bien, Metz Métropole serait complètement en difficulté. Et il se trouve que c'est la région qui a courageusement, parce qu'elle a vu que c'était un outil d'intérêt régional, qui a courageusement accepté de mettre 4 millions et donc de soulager d'autant la facture potentielle de Metz Métropole qui, jadis naguère, avait été inscrite noir sur blanc dans le contrat signé par mon prédécesseur. Et donc, bien entendu, vous avez suivi ça de près puisque vous étiez ministre de la Culture. Alors maintenant, venons-en. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la signature et de l'ouverture du centre Pompidou-Metz? On voit la ville et le département se couvrir d'affiches. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces affiches, on voit le toit du Centre Pompidou avec un pointillé. Et nous avons le slogan « Le département de la Moselle a financé la moitié du toit ». J'en tremble encore, c'était magnifique. La moitié du toit avait été financée par le département de la Moselle. J'en ai déduit que le département de la Moselle était, alors à l'époque c'était M. Leroy, UMP. La même chose que vous, M. Thiel. Et donc, parce que vous avez parlé de mes amis, on va parler des vôtres. C'est le moment. Alors, je me suis dit, M. Philippe Leroy met des affiches 4 sur 3 partout pour revendiquer la moitié du toit, magnifique soit dit en passant, qu'on avait réussi à sauver s'agissant de la charpente, mais ça c'est une autre histoire, pour le département de la Moselle. Et je me suis dit, il va continuer dans le financement du fonctionnement du Centre Pompidou, puisque c'était sa revendication et sa gloire de dire qu'il était à l'origine du toit du Centre Pompidou. Que nenni ! On a quelqu'un qui siège, alors là, régulièrement, c'est le charmant Bernard Herzog. Il est charmant, Bernard Herzog. Il est là, il est souriant, il s'occupe du tourisme en Moselle, il est sympathique comme tout. Et chaque fois, il est suppléant de Madame Griesbeck. De Madame Zimmermann, pardon, de Madame Zimmermann. Alors, Madame Zimmermann, vous le connaissez aussi bien que moi. Et il arrive, et malheureusement, il est là toujours, les poches vides. Lui, il ne nous a pas proposé 4 passés à 3. Il nous propose combien ? 86 000 euros, c'est ça, je ne me trompe pas ? 86 000 euros par an, à condition qu'on mette son logo bien gros, bien large, sur l'initiative qui aura été financée par les 86 000 euros. Et si jamais Madame Colin-Osterlé connaît l'actuel président du département de la Moselle, puisqu'il est à l'UDI comme vous, et puis qu'il paraît qu'il organise des réunions en ce moment avec M. Masson, eh bien, ce sera intéressant. Attendez, bon, écoutez, je suis très bien informé, c'est la presse qui m'informe. Hein. Alors, si jamais Monsieur, donc, le président du Conseil général est dans le droit fil de son prédécesseur, il voulait bien nous donner un coup de main, non pas pour pallier le million qui manque, mais simplement pour se montrer intéressé par le Centre Pompidou, moi, je serais très content. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il le fera. Parce qu'effectivement, qu'a fait Jean-Pierre Masseret ? Premièrement, grâce à la ministre, nous avons obtenu, effectivement, et il a fallu là, je peux vous le dire, tendre un peu le bras au Centre Pompidou Paris. Et quand je dis tendre un peu le bras, j'emploie vraiment une comparaison légère, light, comme on dit maintenant, hein, pour que des œuvres majeures soient installées dans le grand hall, dans la grande salle du Centre Pompidou-Metz, et c'est Miro, c'est Soulage, c'est Picasso, c'est Delaunay, ce sont des grands noms qui sont familiers à un public très large, et pas seulement du Hans Richter qu'on confond avec l'autre et qui est un peu plus pointu et qui correspond à des gens qui sont déjà mieux éclairés dans l'art contemporain. Et c'est le président de la région qui a accepté de signer dans le cadre du pacte Lorraine les moyens nécessaires pour pouvoir faire cette exposition qui, à mon avis, est un premier rebond au Centre Pompidou-Metz puisque nous aurons en permanence des œuvres majeures qui vont rester au moins 2 ans et sans doute plus, puisqu'il y a effectivement tout à fait le moyen de valoriser mieux les collections du Centre Pompidou Paris. Et maintenant, que demande Jean-Pierre Masseret ? Je ne suis pas son porte-parole, mais je l'ai rencontré très longuement il y a 2 jours. Eh bien, il demande simplement qu'on discute un peu et qu'on discute du fameux tour de table que Mme Filippetti a demandé aux collectivités locales de Moselle, de Lorraine, de Metz et de Metz Métropole. Pour l'instant, il y a simplement une personne qui n'est pas autour de table. Madame Colin-Osterlé, permettez-moi de vous le redire, parce que vous avez oublié son nom. C'est bizarre, vous avez décliné et vous avez zappé sur le département de la Moselle. Mais vous avez un sens de la solidarité partisane qui est exceptionnel. C'est sympa à l'UDI. Mais malgré tout, eh bien, on ne peut pas faire l'impasse sur le département de la Moselle, d'autant plus que nous, on est des bons garçons ici. Quand le département de la Moselle nous demande de donner un coup de main pour l'Open, eh bien, on y va. Et même la région va le faire. C'est-à-dire qu'on est tous là en train de travailler ensemble. Eh bien, pour le Centre Pompidou, je compte sur vous, madame. Et puis, maintenant que vous êtes tous ensemble avec M. Masson, eh bien, on va bien y arriver, puisque tout le monde est d'accord. Je compte sur vous pour nous aider à décrocher des financements du département. Et on fera un tour de table fructueux avec Jean-Pierre Masseret, avec M. Masson qui votera le budget au département, puisque vous, vous n'êtes pas conseillère générale, avec M. Bernard Herzog, le suppléant de Mme Zimmermann, et on y arrivera, je suis sûr, à ce que le département de la Moselle prenne en considération le centre Pompidou, comme ça devrait être fait. Je vous remercie. Bravo. Alors, maintenant, explication de vote. Explication de vote.
Il y a d'abord Monsieur le maire.
Monsieur Schumann qui veut une explication de vote.
Voilà. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Non, peut-être pas trop long, mais je parle très peu, Monsieur Etner, très peu. Ma parole est rare. Concernant le centre Pompidou, je n'interviendrai que sur le centre Pompidou. Depuis son ouverture, la question pendante ou les questions pendantes sont autour de savoir si on doit avoir des expulsions temporaires, éphémères, semi-temporaires, temporaires long terme, moyen terme, etc. Sans rentrer dans la polémique, sur ma première délégation comme conseiller délégué au centre Pompidou-Metz, la première chose, j'ai souhaité regarder les documents qui avaient été signés, et je ne veux pas tomber dans la polémique, entre Ville de Metz et l'organisme parisien. J'étais quand même quelque peu très étonné de voir l'extraordinaire légèreté de ce document. Vous pouvez tous le procurer, vous le procurez. Il fait à peine 2 pages. Sur le contenu lui-même, il n'y a pratiquement rien. Il y a eu un souci évident sur le contenant et très peu sur le contenu. Il n'y a pas eu véritablement de réflexion sur le fond. Réflexion d'ailleurs que j'aurais aimé avoir après coup et que je n'ai jamais pu avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Louvre-Lens, nous avons reçu la région Nord-Pas-de-Calais. Ils ont commis des esthéticiens, des sociologues, des anthropologues. Ils travaillent depuis 3 ans sur le contenu. Donc ça, ce n'était pas notre fait. Nous avons hérité d'une situation, bon an, mal an, avec laquelle il faut faire. C'est le premier point. Il faudrait peut-être tout remettre à plat. C'est pas le moment d'en parler, mais il faut refaire quand même la genèse. Et la genèse, c'est une programmation culturelle et scientifique extrêmement légère, au point même que cette programmation n'existe pas. Il n'y a pas le gros volume qui doit être remis pour tout équipement culturel de cette intensité. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais lu. Et vous savez aussi mon intérêt pour ce genre de choses. Quant au deuxième point, Monsieur le maire a eu la gentillesse de rappeler que je me suis battu dès le départ pour avoir une bâche, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mon cher René Darbois, nous aussi, on fait le flic au sens, enfin le flic, passe-moi l'expression, l'espion, pour voir un petit peu comment on parle du centre Pompidou-Metz à Paris. Il est clair qu'il y a un déficit. Nathalie est là pour rappeler qu'à chaque fois, le grand méchant qui prend la parole au conseil d'administration du centre Pompidou, et je n'aime pas dire des choses qui peuvent blesser le centre, mais en tout cas par rapport à Paris, nous devons tous être solidaires pour défendre cet équipement qui est celui qui attire, qui est l'attracteur culturel premier. Donc essayons de travailler ensemble, de revoir les fondamentaux, mais nous ne nous cachons pas qu'il y a des difficultés. Ces difficultés, il fallait très rapidement en retracer quelque peu l'origine. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Schumann. Explication de vote encore de Madame Collin-Osterlé. Madame, oui, vous avez la parole.
Monsieur le maire, simplement pour rappeler, évidemment, que nous sommes d'accord, il y a des difficultés et qu'il faudra certainement revoir ce que tu appelles les fondamentaux. Ça n'est pas ça le sujet. La participation du conseil général, pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes conseiller général, moi je vous parle de la participation de la région, je suis conseiller régional et à ce titre, membre du conseil d'administration.
Je parle de
donc
tout,
ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je trouve les déclarations de M. Masseret absolument nuisibles pour le centre, irresponsables, parce qu'on n'annonce pas ça quelques heures avant le vote d'un budget qui ne pourra pas être voté sans la participation aujourd'hui du conseil régional. Et ça, je trouve cela absolument irresponsable. Je vous remercie.
Merci. Alors, qui s'oppose à la motion? Qui s'abstient? Écoutez, unanimité. Je vous remercie. Je vous propose d'aller dîner.